Salut les passionnés, on est en direct de la RG Play 2026. Je suis avec une figure incontournable du milieu, hein. Quelqu'un qui ne se contente pas que de jouer, mais qui enseigne aussi et préserve notre patrimoine. Donc Douglas Alves.
Bonjour.
Bonjour Doug, comment ça va?
Ça va.
Bon, bah bien. Ici, on est à la RG Play, hein, un événement organisé par l'association RGC et l'association Replay de Dijon. Quel est ton lien avec cette communauté que représente pour toi ce salon par rapport à l'évolution du rétro gaming en France?
Ah, ce salon en particulier?
Ouais, ce salon en particulier.
Alors moi déjà je voudrais commencer avec le avec l'historique de la RGC. Moi je découvre début des années 2000 l'association et surtout pour ses manifestations autour de la marque Atari. Voilà, donc au départ c'est vraiment comme ça.
Avant c'était l'AC, l'Atari Convention.
Exactement.
Et ils se sont fait taper un petit peu les doigts sur Atari, voilà, par Atari. Et bon, voilà. L'AC existe toujours, mais
oui,
elle s'appelle AC.
Voilà.
D'ailleurs, convention à guichet fermé.
Oui, c'est les conventions privées.
Voilà. Ouais, dédiées ordinateur plus que console.
Ah non, il y a quand même de la Jaguar. Jaguar, voilà, de l'Atari VCS. Voilà, alors même si au début, ça l'était peut-être un peu plus que maintenant, il y a quand même des gens qui venaient à l'époque qui ne viennent plus aujourd'hui, qui ont un peu arrêté, c'est dommage.
Oui, c'est sûr.
Voilà, mais voilà comment j'ai connu l'association et puis... Et puis après, voilà, ça s'est étendu à d'autres plateformes. On va dire que à un moment, l'orientation, c'était vraiment de proposer du jeu vidéo rétro, mais du jeu vidéo rétro non conventionnel. Voilà. Et la RGP aujourd'hui, c'est justement un peu le contraire là, c'est de les, c'est
de laisser. Doug et son masseur privilégié en direct de live.
Aujourd'hui, la RGP, c'est d'essayer de faire rentrer le grand public au moins du coin et qu'ils viennent voir ce type de manifestation. Voilà, mais c'est vrai que la RGP est beaucoup plus grand public. Moins s'adresser aux bidouilleurs et aux
trapissés. C'est l'occasion aussi de faire découvrir au public novice ce qui est le rétro gaming et le jeu vidéo aussi.
Oui, enfin le jeu vidéo ancien.
Ouais.
Le classique gaming. Voilà.
Et toi, t'aimes bien un petit peu venir ici dans ce genre de salon. Voilà, c'est ton petit plaisir aussi de venir partager tes connaissances et puis de voir les copains aussi.
Ah non, pas du tout. Hein. Moi, on m'oblige. Moi, on me fouette si je viens pas. Les gens, ils sont déçus. Hein, non.
Ouais, mais t'aimes ça aussi. Bon, c'est vrai qu'après, t'es tombé assez jeune hein, dans le jeu vidéo, pour ceux qui ne connaîtraient pas.
Je dirais que la RGP, c'est vraiment, comme tu dis, plus pour venir voir les gens. Parce que voilà, je viens pas pour une machine en particulier. Alors parfois oui, par exemple, il y a Frédéric Reynal qui vient avec un nouveau jeu Mega Drive.
Ça
pour le coup, ça vaut le coup de venir lui voir, de le voir, de lui parler, d'essayer le jeu, de voir comment ça a progressé. Donc voilà, ça c'est des bons arguments pour me faire venir.
Surtout qu'il a fait, mais ça on le verra tout à l'heure, si vous restez sur la chaîne. Mais je vais aller interviewer Frédéric. Il nous a fait un petit stand avec son jeu Popcorn qu'il a développé sur Mega Drive, avec un petit spinner. Franchement, la démo, là, c'est top. Donc on va aller faire une petite interview de Frédéric, s'il est toujours disponible, parce qu'il y a des... J'espère que le bruit ne vous dérange pas trop, parce qu'en même temps de l'interview, on a aussi des conférences. Donc oui, Doug, pour poursuivre un petit peu sur ton parcours, tu as commencé à écrire dans des revues dédiées aux jeux vidéo.
Avant, j'écrivais pour ma prof de français.
Oui. Juste pour vous. Voilà. Joypad, si je me trompe.
Non, pas Joypad. Tilt, console plus. Eh ben, Joypad.
L'ami Frédéric Rénal nous a remis.
On m'avait donné une chance d'aller à Joypad et curieusement, j'y suis pas allé. Peut-être que. Je me disais, je faisais peut-être un peu doublon avec Greg à l'époque sur certains aspects. Voilà, mais c'est vrai que. Voilà, après, moi, surtout après Tilt et Console Plus, c'est surtout Canal Plus avec Cyber Flash, C2Point et tout ça, où je suis allé un peu voir comment ça se passait. Ça me changeait de la presse papier, en tout cas. C'était marrant d'écrire un texte qu'il allait être joué par un comédien sur un personnage en 3D. Et ça, c'était une première. En France, d'avoir en fait un personnage qui présente une émission et ce personnage n'est pas une vraie personne, mais un objet 3D.
Ah oui. C'était marrant ça.
Ça, c'était super novateur à l'époque. On parlait de cyberculture.
Oui. Et puis c'était toute l'arrivée.
On parlait pas de culture populaire, de culture geek, mais de cyberculture.
Et puis c'était. Attends, le mot à la mode à l'époque.
Multimédia.
C'était le truc qui arrivait avec le CD-ROM. Les cartes son Sound Blaster, etc. C'est vraiment le truc qui.
L'Amiga, ils avaient inventé tout ça en 85.
Ouais, mais bon. C'était un truc de riche, l'Amiga. Comme tu aimes écrire, suite au succès du projet Vectrex Mini, c'est au succès parce qu'il y a quand même eu levée de fonds de plus de 1 million d'euros. C'est énorme.
Oui.
Énorme. J'ai un trou de mémoire parce que le livre Vectrex intitulé donc Electric Lines, t'es dessus.
Oui.
Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à propos de ce livre, comme tu aimes l'écriture, tu aimes.
Pour le livre, c'est le but, c'est simple, c'est d'essayer de montrer ce qu'a été la Vectrex à l'époque, de pourquoi ce projet aussi de Vectrex Mini aujourd'hui, de parler de la technologie de la Vectrex, surtout de l'écran, qui est un écran de type oscilloscope,
Oui.
Et alors moi, c'est vrai qu'au début, je ramais un peu sur ça. C'est le seul aspect, la Vectrex, que j'ai connu à l'époque. Je connais le processeur, mais vraiment le truc qui m'a enrichi moi-même, en l'écrivant et qui c'est effectivement entre un écran vectoriel dans les années 60, les oscilloscopes, la Vectrex, quels sont les rapports, les points communs, les différences. Ça m'a appris beaucoup de choses déjà.
Et est-ce que tu as rencontré ou tu rencontres des difficultés pour écrire le livre? Parce que j'ai vu David Ogia, que je salue au passage, qui est l'initiateur du projet de la Vectrex Mini. J'ai vu qu'il faisait un appel à témoins pour étoffer tout ce qu'on pourrait retrouver dans le livre. Est-ce que tu éprouves des difficultés à rassembler des données, des anecdotes, etc.
On essaye, ça va être compliqué d'être exhaustif. Hein. Par exemple, là l'autre jour, on travaillait sur la liste de tous les homebrew et on avait vraiment besoin un peu de l'aide de la communauté pour certaines photos, ou certains documents qui ont été perdus. Par exemple, moi, je recherche une sorte de prospectus qui n'a jamais été scanné sur le net, qui a été imprimé à une époque.
Ce qui serait une exclusivité, en quelque sorte.
Et ça serait bien de pouvoir en parler, en fait, dans le livre. Ouais. Là, par exemple, on a un auteur de fanzine de doujinshi très connu au Japon qui s'appelle Zolge, qui avait sorti un fanzine sur la Vectrex.
D'accord.
Nous, on l'a récupéré.
D'accord.
On est en relation avec l'éditeur, avec Zolge. Donc voilà, on va être mis en relation. Si on peut lui poser quelques questions aussi de cette unique publication sur la Vectrex au Japon, qui est très underground, puisque c'est du fanzine.
Rappelle-moi le nom de la Vectrex au Japon, je ne l'ai plus sur le bout de la langue.
C'est le vaisseau qui va aussi vite que la vitesse de la lumière. C'est Kosokosokoken, je crois.
Je ne sais plus.
J'ai toujours du mal à...
En fait, je ne le retiens pas, il faudrait que je regarde mon conducteur, mais...
En fait, elle a ce nom-là. Mais les Japonais quand même le, comprennent Vectrex parce que
d'accord.
Y a pas, voilà, y a, moi je le vois que toutes les publications au Japon, j'ai, là j'ai traqué toutes les publications qui parlent de la Vectrex au Japon, elle est marquée quand même en étant avec les deux noms. Hein, donc,
D'accord. Et est-ce que tu as réussi à être en contact avec le créateur de la Vectrex?
Bah, c'est en cours. D'accord. C'est en cours, mais c'est un peu compliqué.
Je pense que voilà. Ça doit être un monsieur c'est assez âgé maintenant.
Ouais, 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 c'est David qui s'en occupe. Là, c'est bon. Bah, on espère quand même avoir une petite interview, quoi, mais, minimum de lui, quoi. C'est pour qu'on
ouais,
la mette dans
serait,
le dans le livre.
Génial. Ça serait génial. Faire une préface ou un petit.
Bah,
truc
ça serait
comme
bien. Ça c'est ah, le. Ouais. Je pense qu'il faut le faire maintenant. Oui, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Et sinon, bah, pour le reste.
Bah justement, où est-ce que t'en es? T'avances bien? De toute façon, t'es en, c'est un prototype encore. Le livre n'est pas bouclé d'être...
Bah non, il n'est pas bouclé. Hein,
voilà.
Et là, je suis un peu... voilà, je suis un peu quand même sur pratiquement une bonne partie de mon temps libre à travailler dessus.
En anglais et en français? Les deux versions seront disponibles?
Oui.
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 Ok.
Oui, oui.
Normalement, ça va faire plaisir à toute la communauté.
Normalement,
qui
oui,
aime
mais
aussi avoir des beaux livres.
Mais il y a aussi une version japonaise éventuelle.
D'accord.
Éventuelle, ah, oui. Puisque là, en fait, il y a un deuxième financement participatif au Japon.
D'accord.
Voilà, qui démarre là.
Okay.
Donc, on va voir comment les Japonais ils vont réagir à ça.
D'accord.
Puisque je pense que si les gros passionnés connaissent la console. En fait, il y a vraiment y a des joueurs qui, à mon avis, vont être étonnés de cette console qui est quand même très atypique.
Assez atypique, voilà. Mais franchement, y a beaucoup de shmup hein, dessus, sur cette console-là. Et on a vraiment une rapidité et un effet de profondeur qui est vraiment bluffant. Faut y jouer, je vous invite à y jouer si vous avez l'occasion.
Si vous aimez jouer avec des électrons, oui, c'est.
Non, mais même visuellement, c'est vraiment.
Oui, oui mais c'est à cause des électrons.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais les jeux sont top.
Non, mais en fait, pour. Bon, je ne sais pas qui pourrait trouver sur nos propos, que ce soit en vidéo ou en podcast, mais il faut se dire que regarder un écran vectoriel, en fait. Voilà, c'est une expérience qui est différente de celle d'un écran avec des pixels.
Ouais.
Voilà. Donc en fait, il faut vraiment l'expérimenter. Alors bien sûr, on peut aller sur les émulateurs. Pour avoir une bonne émulation de la Vectrex, faut vraiment un bon écran et un bon shader. Parce qu'en fait, pour vraiment émuler la Vectrex, faut avoir une finesse d'écran en fait très fine. Voilà, avoir un écran 4K le plus petit possible. Enfin, voilà, c'est la difficulté en fait de la Vectrex Mini. La plus grande difficulté, c'est ça, c'est d'avoir un visuel en fait.
Ouais. C'est fidèle. Pour ça que le choix d'un écran AMOLED de 8 pouces, je me trompe pas, si ma mémoire est bonne, était la meilleure des restitutions pour l'écran par rapport à l'écran d'origine. Quoi. Mais ouais. Ok, bon, écoute, on te souhaite en tout cas bon courage pour finaliser ce livre. On est tous impatients d'avoir entre les mains mais, et qu'on attend de lire aussi. Mais...
Moi, je suis impatient de pouvoir dormir, donc de le finir. Voilà.
Et pour clôturer tiens, cette interview, si tu avais une seule console comme ça à emmener par la Vectrex sur une île déserte, ça serait laquelle?
C'est une drôle de question parce que déjà, tu fais quand même un peu du favoritisme, tu parles que de console.
Ouais, bah non, mais dis-moi s'il y a autre chose.
Est-ce que ça pourrait pas être un micro-ordinateur,
ah bah,
une borne d'arcade?
À toi de me dire. Une borne d'arcade, c'est un peu gros sur une île déserte. Mais
ah non, mais non.
Non,
non. Il paraît qu'il y a des îles comme ça où on peut inviter plein de monde.
Est-ce que t'as des
non, c'est...
Une pièce favorite?
Non, si c'était une console, ça serait la PC Engine.
Ah,
là on fait du lobbying là.
Oui, il y a quelqu'un du MSX Village.
Si ça serait une bande d'arcade, ça serait allez Galaxian, même si bon, voilà, parce que ça a été mon premier amour de l'arcade. Et si c'était un ordinateur, je pense que je prendrais certainement un Atari ST parce que ça a été mon premier ordinateur à moi.
Et donc tu reviens à tes amours.
Voilà, et pareil, je le connais par cœur, j'ai appris un peu à programmer dessus. Voilà, il y a le jeu dessus qui m'a révélé le potentiel du jeu vidéo qui est Dungeon Master. Enfin voilà, c'est donc voilà.
Ok, bah écoute. En espérant qu'on n'aille pas sur une île déserte un jour.
Bah si, elle est déserte.
Oui, oui. Non mais déjà, il n'y aurait pas d'électricité. Donc
ça ouais, ouais. Mais Atari m'a appris quelque chose dans une de ses pubs. C'est qu'en fait, si vous allez à la plage avec votre console, vous pouvez utiliser le sable à la place d'une prise électrique.
D'accord.
Voilà. Et que vous pouvez utiliser le ciel comme rétroprojecteur.
Oui, oui, on allume une bougie aussi.
Voilà. Okay. Et après, on peut jouer à l'Atari 5200 et tout, sans problème, quoi.
Okay,
donc, grâce à Atari, j'ai appris plein de choses.
Ah bah, je vois ça. Merci en tout cas pour cette interview.
Ben, de rien.
Et à bientôt.
À bientôt.
Ciao, ciao.